Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les djihadistes restent à Idlib en Syrie, malgré le plan russo-turc qui envisageait une zone démilitarisée. L'accord visait à éviter un assaut meurtrier du régime syrien contre le dernier bastion de l'opposition. Il est fragilisé ce matin, nous verrons cela. Les Verts grappillent des voix, des points en Europe occidentale. En Bavière, ils talonnent la CSU, obligée de négocier pour avoir une majorité. Au Luxembourg aussi, les écologistes séduisent. Et puis en Belgique, ils ont remporté hier plusieurs mairies stratégiques. Nous irons à Bruxelles. Dans cette édition encore, nous nous pencherons sur le budget 2019 qui arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un budget déséquilibré au profit des entreprises. Voilà ce que disent certains économistes. Et puis, rencontre avec des habitants de Romainville, au nord de Paris. Ils manifestaient hier contre un projet d'une base de loisirs portée par la région. Un projet qui prévoit de bétonner une partie d'une forêt sur place. Quel sort attend la province d'Idlib en Syrie? C'est aujourd'hui qu'expire le délai imparti pour mettre en application l'accord russo-turc établi en septembre dernier. Cet accord ambitionne de créer une zone démilitarisée dans le nord-ouest syrien, aux limites de la dernière vaste région rebelle d'Idlib. Mais hier, les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham ont affirmé vouloir continuer à se battre, mettant à mal cet accord, Laurent Stéphane.
Un mois après l'élaboration de l'accord russo-turc qui a permis d'éviter une offensive des forces pro-régime sur Idlib, son application reste incertaine. Cet accord prévoit la création d'une zone démilitarisée aux limites de la province d'Idlib, dominée par des djihadistes et des rebelles. Une zone qui doit séparer les territoires insurgés de ceux contrôlés par le régime. Mais pour cela, deux conditions ont été posées. Le retrait de toutes les armes lourdes des secteurs qui doivent faire partie de cette enclave et le départ d'ici ce lundi des forces djihadistes. Or, selon diverses sources, les combattants de ces groupes sont toujours présents sur le terrain et aucune préparation de retrait n'a été observée. Simple provocation ou tension renaissante, des incidents ont émaillé les deux derniers jours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. L'organisme affirme que des bombardements du régime ont eu lieu hier contre la future zone tampon. La veille, des tirs de mortier avaient eu lieu depuis ce territoire contre des régions sous contrôle gouvernemental. La première violation claire de l'accord selon l'OSDH. Bachar al-Assad comme le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ont récemment affirmé que cette entente était temporaire. Ailleurs dans le pays, des accords dits de désescalade ont permis en réalité aux forces pro-régime de gagner du temps avant de reprendre les territoires contrôlés par l'opposition, qu'il s'agisse de la Routa ou de la province de Dera.
C'est un score historiquement bas pour les alliés d'Angela Merkel. La CSU, le parti conservateur en Allemagne, en Bavière, recueille environ 37% des voix aux élections régionales organisées hier dans cette région bavaroise. Cela fait 50 ans que la CSU avait la majorité absolue dans ce land. Sa chute profite à l'AFD, le parti anti-immigration, qui recueille près de 11% des suffrages. Mais elle profite surtout aux écologistes qui arrivent deuxième avec près de 18%. Des voix. Les écologistes, ils ont aussi convaincu hier en Belgique. Quelques 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les municipales et les provinciales. Il s'agissait d'un premier test électoral pour le gouvernement de centre-droit, composé des libéraux et de la NVA, le parti nationaliste flamand. Ils ont donc été souvent devancés hier, Johan Hochstein.
La surprise est venue des écologistes qui ont réalisé une véritable percée aux élections municipales. À Bruxelles, surtout, mais aussi en Wallonie, dans le sud du pays, le Parti Vert est arrivé en tête dans plusieurs communes de la région bruxelloise. Des municipalités qui devraient donc être administrées par un maire écologiste. L'urgence climatique fait la une de l'actualité ces derniers mois, justifient les commentateurs. Et puis, il y a les scandales à répétition liés à la gestion frauduleuse des deniers publics au Parti socialiste notamment. Le mouvement réformateur, le parti du Premier ministre Charles Michel, fait également les frais de cette vague verte. En Flandre, dans le nord du pays, le parti écologiste fait aussi un bon score, à Anvers notamment, mais pas suffisamment pour déstabiliser la coalition au pouvoir. La NVA, l'alliance néo-flamande, reste maître du jeu et Bart De Wever, le président du parti nationaliste flamand, devrait pouvoir conserver son siège de maire à Anvers, contrairement à ce qu'avaient indiqué les sondages. Dernier élément, le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite, effectue un retour en force dans plusieurs municipalités flamandes.
Et notons que par ailleurs au Luxembourg étaient organisées hier des législatives. Là aussi, les Verts sont en progression de 5 points à 15%. En tête, le parti démocrate chrétien du Premier ministre. Son sort ce matin est incertain, talonné par les socialistes et les libéraux. Les négociations entre Londres et Bruxelles sur le Brexit sont toujours dans l'impasse. Elles butent encore et toujours sur le sort de la frontière irlandaise après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Un sommet européen doit normalement clore les négociations en milieu de semaine. Les 19 budgets de l'année prochaine de la zone euro seront présentés aujourd'hui à la Commission de Bruxelles. Et cette année, c'est vers l'Italie que tous les regards vont se tourner. L'Italie qui a la plus faible croissance de la zone euro et dont 27 milliards d'euros de dépenses ne sont pas couvertes pour le budget de l'année prochaine. En France, ce budget est discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un budget pour le pouvoir d'achat des ménages, dit le gouvernement, qui avance le chiffre de 6 milliards d'euros de baisse d'impôts. Dans le détail pourtant, les grands gagnants sont surtout les entreprises, Isabelle Chaillot.
6 milliards de pouvoir d'achat en plus pour les ménages d'après Bercy. Sauf que le chiffre est contesté par de nombreux économistes car il ne prend pas en compte le quasi-gel des pensions de retraite et des allocations familiales. Mais il est aussi à mettre en regard de la baisse bien plus importante de la fiscalité des entreprises. Principale nouveauté de ce budget 2019, la transformation du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, en baisse de cotisation directe pour les employeurs. Et les entreprises vont en profiter doublement. Car l'année prochaine, année de conversion du dispositif, elles bénéficieront à la fois du crédit d'impôt sur les salaires versés en 2018, mais elles profiteront aussi de la baisse des cotisations sur les salaires payés en 2019. Ajoutez à cela la diminution de l'impôt sur les sociétés, la suppression du forfait social sur l'intéressement versé aux employés, et on arrive à une baisse des prélèvements obligatoires de plus de 18 milliards pour les entreprises. C'est trois fois plus que pour les ménages.
Voici des chiffres qui vont dans le sens des réformes voulues par le ministre de l'Éducation nationale. Des chiffres qui sont présentés par le ministre lui-même ce matin. Près de la moitié des écoliers en classe de CE1 ont des difficultés en calcul mental. Jean-Michel Blanquer dévoile ses résultats provisoires, résultats d'évaluation auxquels ont participé en ce début d'année 1,5 million d'élèves. Et selon ces évaluations, critiquées par les syndicats, 23% des élèves au CP ont des difficultés, eux, à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. Jean-Michel Blanquer présentera par ailleurs aujourd'hui sa loi pour une école de la confiance, un texte qui regroupe beaucoup de mesures, dont l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans en France. C'est un îlot de verdure de 27 hectares à 2 km de Paris, la forêt de la Corniche des Forts à Romainville en Seine-Saint-Denis. Elle pourrait être transformée en base de loisirs. C'est le projet de la région Île-de-France. Il s'agit en fait d'une ancienne carrière de gypse fermée officiellement au public mais fréquentée par des promeneurs. Et d'ici 2020, la région veut la transformer en un club de loisirs, une base de loisirs, un projet à 12 millions d'euros qui est contesté par les riverains et les écologistes. Ils se sont mobilisés hier. Julie Paco les a rencontrés.
Une chaîne humaine en lisière de forêt vient troubler l'habituelle quiétude du lieu. Ils sont 150 à manifester leur opposition à la construction de la base de loisirs dont les travaux ont débuté depuis une semaine. Chasuble fluo sur le dos, Michel vit à proximité depuis 20 ans.
C'est pas la peine de partir en vacances en Amazonie, c'est pas la peine. C'est une forêt qui a poussé depuis 60 ans sur des anciennes carrières. Donc en fait, l'homme n'y est pour rien. C'est pas l'artificiel, c'est du naturel, c'est du vrai, c'est de l'authentique.
Un coin de verdure préservé qu'affectionne également Reda, 12 ans.
Des fois on va au parc. Avant, on aimait bien cette forêt. Même une fois, je crois, on est passé en dessous du grillage. 2000 arbres enlevés, quand même, c'est un peu trop. S'ils enlèvent tout ça, ça va faire un peu bizarre de revenir et voir tout cet endroit vide.
Et au-delà de la destruction des arbres, le comblement des carrières inquiète particulièrement les écologistes, comme Jean-Claude Oliva, de la coordination Hauts-Île-de-France.
On a une forêt sauvage qui rend des services pour le climat, pour l'eau, pour la stabilisation des sols. Et on va remplacer ça par une prairie artificielle qui, elle, va être une plaque chauffante. Elle va emmagasiner la chaleur pendant la journée et elle va la restituer la nuit, accentuant ainsi les effets de la canicule. D'abord pour le climat, c'est une aberration.
Soutenu par plusieurs élus, les opposants au projet réclament un moratoire et la réouverture d'un débat pour que les contre-projets soient véritablement étudiés.
C'était un reportage de Julie Paco à Romainville. La forêt à Romainville, au nord de Paris, elle sera au sec aujourd'hui, comme la façade ouest. Sur la façade ouest, il va pleuvoir en revanche, c'est ce que dit Météo France. Il va pleuvoir aussi sur le sud, où une vigilance pluie-inondation est en vigueur ce matin du Tarn-et-Garonne jusqu'aux Pyrénées-Orientales. L'Aude est même en alerte rouge ce matin aux pluies et inondations. Partout ailleurs, le temps sera couvert et ensoleillé sur le quart nord-est à la mi-journée. La minimale ce matin, elle est à Brest avec 13 degrés. Il fera 15 degrés à Bordeaux, 17 à Besançon et Lyon, 20 degrés en région parisienne, 23 degrés sur la Corse.